Ariel Halimi, bonjour. Vous êtes avocat, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et vous publiez un essai intitulé « L'État hors la loi » dans lequel vous proposez une réflexion sur les violences policières.
C'est exactement ça et c'est un essai qui n'est ni scientifique ni sociologique puisque je suis avocat, mais je me fonde sur mon expérience avec les victimes de violences policières depuis une vingtaine d'années pour essayer de comprendre un peu plus avant ce que sont les violences policières en France depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, et je propose une typologie des violences policières pour aller affiner un petit peu le raisonnement.
Est-ce que vous l'avez écrit très récemment, parce qu'il y a eu une succession d'émeutes, de violences ces derniers temps, encore une manifestation samedi dernier. On est en plein dans l'actualité, là.
Alors, je l'ai écrit sur 9 mois, précisément. Donc, c'est très court. Et en même temps, j'avais toute la matière à disposition, notamment les dossiers eux-mêmes et les histoires que je relate et qui me servent à essayer de comprendre le fonctionnement un peu plus précis des violences policières. Et évidemment, je l'ai réécrit au dernier moment puisque je me suis retrouvé en plein mois de juillet à défendre de nouvelles affaires de violences policières, notamment à Marseille, avec Mohamed Bendriss, qui a été tué par des munitions de LBD 40, ou son cousin Abdelkarim Yagoubi et d'autres encore. Une réécriture permanente. Les affaires de violences policières, c'est une affaire au long cours et une affaire du quotidien.
Vous le dites, vous vous basez sur des cas que vous connaissez. Vous avez également classé ces violences. Pourquoi est-ce que vous les avez classées comme ça, en trois catégories en gros ?
D'abord parce que je me suis aperçu qu'il y avait peut-être des analogies entre des grands ensembles. Le premier ensemble, c'est celui des violences policières dites ethno-raciales. C'est comme ça que je les qualifie tout au moins. Et qui correspondent plutôt aux violences qui sont commises contre les personnes soit issues de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, notamment dans les quartiers populaires, avec la volonté de confirmer une forme de ségrégation sur ces quartiers. La deuxième catégorie que j'identifie, c'est celle visant l'expression politique ou festive dans la rue. C'est plutôt celle qui concerne le maintien de l'ordre.
On pense aux gilets jaunes.
Voilà, notamment, une loi travail également, loi retraite, et qui a pour fonction, à mon sens, de territorialiser l'espace public. Et enfin, la troisième catégorie est plus récente, c'est celle qui concerne les personnes qui sont au volant de leur véhicule et qui sont tuées ou blessées gravement par les forces de l'ordre. Et je pense évidemment à l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, un article qui a été créé en 2017 et qui a peut-être causé beaucoup plus de morts au volant, notamment dans ces fameux refus d'obtempérer, entre guillemets, et qui a pour fonction, à mon sens, de contrôler et maîtriser les flux de circulation.
Mais est-ce que certains cas de violence policière ne se croisent pas ? Enfin, je veux dire, dans l'affaire de Naël, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une violence ethno-raciale ?
Oui, c'est malheureusement ce qu'on constate. Évidemment, on ne peut pas faire de statistiques ethniques en France, et c'est louable qu'on ne puisse pas en faire. Hein. En revanche, on se rend compte que dans la plupart des dossiers de mort au volant, donc ces fameux L435-1, on a plutôt des personnes noires ou arabes qui sont tuées par la police, et donc on peut faire un recoupement aussi entre ces deux catégories qui sont les violences policières à caractère ethno-racial et les violences qui visent les flux de circulation.
Je précise que vous dites que vous n'évoquez pas les cas de violences de migrants ou de violences aux frontières ou de gens du voyage, par exemple, parce que ce ne sont pas des cas que vous connaissez personnellement.
Exactement, tout simplement parce que je ne traite pas ce type de dossier et que d'autres avocats ou des journalistes comme Louis Viter travaillent sur ces questions.
En lisant votre essai, on se rend compte que c'est très difficile de porter plainte contre un policier.
En fait, l'objet du livre est de montrer qu'il ne s'agit pas que de simples bavures. Il n'y a pas des simples cases individuelles avec des dérapages, mais qu'il y a un schéma qui se dessine au fur et à mesure. Ce schéma, ce sont les instructions. Le terme qui est un peu discuté de systémique et qui fait que le gouvernement refuse qu'on parle de violence policière parce que ce terme va avec violence policière, hein, violence policière systémique, eh bien ça n'est pas violence policière systématique. Ça veut dire qu'il y a tout simplement un ensemble de dispositifs ou de carences ou de négligences de la part de l'État qui conduisent à ces violences policières. C'est ça que veut dire systémique. Mais également de la part de l'autorité judiciaire. Et que l'impunité qui est constatée en matière de violence policière, du fait que l'autorité judiciaire travaille évidemment avec les policiers, du fait que l'autorité judiciaire est très tolérante, beaucoup plus tolérante à l'égard des policiers qu'à l'égard des non-policiers, eh bien, conduit à une impunité et donc à une faisabilité, à une possibilité de ces violences policières.
De nombreux exemples récents montrent que, sans images vidéo, on n'écoute souvent que la parole des policiers. Dans ce cas, on peut dire que la multiplication des images, c'est bon pour les droits des citoyens ?
Oui, c'est bon dans la mesure où ça a permis de révéler l'existence de ces violences qui existent depuis toujours, hein, qui se sont probablement aggravées et multipliées ces dernières années, mais qui ont toujours existé, y compris d'ailleurs dans les grèves des ouvriers au début du 20e ou au début du 19e siècle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que malheureusement, aujourd'hui, l'image fait tout. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'image, on considère qu'il n'y a pas de violence. Quand il y a des images, c'est discutable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre en tant qu'avocat. Et effectivement, le traitement de l'image est particulièrement important. On se rend compte également que même l'image, lorsque on a l'image devant soi, eh bien, la violence est quand même contestée par les autorités. Je prends l'exemple du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui, au micro de Tristan Valex sur complément d'enquête, alors qu'on lui montrait les images de moto de la brave M qui roulait sur un manifestant, contestait même l'existence de cette violence. Vous voyez, l'image est particulièrement importante et a permis effectivement de faire avancer le traitement judiciaire de ces affaires.
Le procès de Magnanville s'est ouvert cette semaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui a contribué à ce qu'on arrive à cette augmentation des violences ?
On se rend compte qu'il y a des narrations différentes, qui compris au sein du corps de la police, il y a des discours et des narrations avec des traumas. Réel, notamment l'affaire de Magnanville, l'affaire de Viry-Châtillon, et il faut prendre en considération ces traumas, ils sont réels. Ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'il y a ce type d'affaires, il y a une demande de la base des policiers. Ce fut le cas en 2016-2017, après l'affaire de Magnanville et de Viry-Châtillon, avec le mouvement des policiers en colère, qui est venu sous les fenêtres de Vendôme, puis reçu par François Hollande parce que les syndicats ont eu peur d'une prise de pouvoir par la base des policiers et que tout ce processus de revendication a abouti à l'adoption d'un allègement finalement de la légitime défense et de l'usage des armes avec le fameux article L435-1 du Code de la Sécurité Intérieure et qui explique aujourd'hui, hein, la plupart des sociologues le disent, la multiplication par 5 des tirs mortels de policiers sur des personnes au volant de leur véhicule entre 2016 et 2017, aujourd'hui avec une forme de stagnation, mais effectivement beaucoup de morts. Concrètement, cet article a été interprété comme allégeant l'usage des armes et la légitime défense, ce qui a conduit à un plus grand nombre de tirs mortels.
Qu'est-ce qui pourrait faire cesser ces violences, en tout cas diminuer ces violences policières ?
Alors d'abord, une reconnaissance par l'État de ce que ces violences émanent de l'État aussi. Et donc, un changement d'un grand nombre de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Notamment, évidemment, la modification du recrutement et de l'indépendance de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui est la police des polices et qui travaille sur les dossiers de violence policière. Mais on constate que l'effet corporatiste va conduire à protéger et donc à avoir des mauvaises enquêtes s'agissant des fonctionnaires de police. Évidemment, en maintien de l'ordre, la désescalade, qui est adoptée par la plupart des pays européens, mais pas par la France, parce qu'il y a une forme de virilisme dans la formation des policiers. Voilà, une succession de choses à faire, de mesures à prendre, qui peuvent être prises assez facilement, mais il y a une forme de rejet de l'État quant à la remise en question du fonctionnement de l'institution policière, parce qu'en réalité, c'est le fonctionnement même de l'État et des instructions qui pourraient être remises en cause.
Parce que c'est une façon d'exercer le pouvoir ?
Oui, il y a un rapport entre le pouvoir et la violence en France comme dans d'autres pays, mais en ce moment surtout en France, qui est pathologique. L'on considère que l'exercice du pouvoir implique la violence, alors qu'on pourrait considérer autre chose. Il y a beaucoup de pays qui ont fait leur aggiornamento sur le rapport à la violence. Et évidemment, exercer le pouvoir ne veut pas forcément dire exercer la violence.
Arié Halimi, merci. Je rappelle le titre de votre essai, L'État hors la loi, logique des violences policières, paru aux éditions La Découverte.